Et donc là où nous en étions restés, pardon, c'est on était dans les batailles de standard, hein, on avait fait tout le déroulement de la bataille du VHS contre le Betamax. On avait présenté les éléments clés des batailles de standard et notamment le phénomène des externalités de réseau qui joue un rôle très important. Et puis on en était resté sur le fait que entre les deux grands types de standards qui sont les standards de droit et les standards de fait, pour les standards de droit, on est avant tout dans une logique de lobbying. Hein, pour les imposer. Et pour les standards de fait, eh bien, on allait justement rentrer dans les moyens pour essayer d'en imposer, hein, lorsqu'on est impliqué dans une bataille de ce type. Alors, on peut jouer sur quatre facteurs principalement. Le premier, c'est le positionnement du produit. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ces questions, pas sur les batailles de standard, hein, mais sur les questions de choix de positionnement de produit, dans le cours sur la gestion de projet, au XXIe siècle. Ce qu'il faut retenir dans le cadre des batailles de standard, c'est que une guerre de standard, tiens d'ailleurs, il y a une grosse coquille qui m'a échappé, ça peut justifier un positionnement que l'on peut qualifier d'agressif, alors ce qu'on qualifie de positionnement agressif d'un point de vue marketing, c'est un prix bas. C'est souvent accompagné d'une campagne de communication importante et d'une diffusion massive du produit. Parce que, en général, si on met un prix bas tout de suite, c'est pour le diffuser rapidement. Et vous voyez bien l'intérêt que ça peut avoir dans le cadre d'une bataille de standard où le nombre d'utilisateurs joue beaucoup. Mais évidemment, si derrière vous avez un prix bas, que vous ne faites que peu de communication, que votre produit n'est pas présent dans la distribution, vous voyez que vous aurez simplement perdu de la marge pour rien. Alors, c'est évidemment une stratégie risquée, hein. C'est d'abord et avant tout un risque au niveau financier, parce que vous voyez bien que qui dit prix bas dit pas de marge, voire marge négative. Ça arrive, hein, dans le cas de batailles de ce type-là. Qui dit communication importante dit possiblement coût de communication important. Alors, sachant quand même pour nuancer que quand on dit communication importante, c'est à l'échelle de qui est visé. Donc parfois, quand il s'agit de standards qui visent du B2B, d'autres entreprises, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va forcément se payer 30 secondes de publicité à une heure de grande écoute sur les grandes chaînes. Voilà, c'est donc. Le coût de communication dépend beaucoup du secteur d'activité. Et la diffusion massive auprès des distributeurs, elle est coûteuse aussi. Mais surtout, ce qui vient s'ajouter, c'est que tout ça n'a de sens que si derrière, vous avez les capacités de production qui vous permettront de répondre à cette demande massive que vous essayez de créer. Donc, si vous fabriquez vous-même, ça veut dire qu'il faut investir lourdement dans votre appareil de production. Et même si vous faites fabriquer, ça veut dire que vous allez sans doute constituer des stocks importants et donc prendre un risque de prendre le risque d'acheter des produits que vous aurez du mal à écouler par la suite. Donc on voit que le risque est quand même assez considérable. De manière un peu moins importante, mais ça peut avoir quand même son importance, c'est aussi un risque au niveau de l'image, puisque vous avez fait connaître votre produit assez largement auprès de la cible, Du coup, si c'est un échec, l'échec ne passera pas inaperçu. Alors que, il y a énormément, évidemment, hein, d'innovations, qui sont des échecs, mais la plupart de ces échecs passent assez inaperçus. Parce que, bah, justement, il n'y a jamais eu de diffusion massive, il n'y a pas eu de communication massive, et donc, bah, finalement, une bonne partie des clients potentiels n'ont même jamais entendu parler du produit, et les autres, bah, auront bien vite oublié qu'il y avait eu cette tentative. Si vous avez fait une, si vous avez eu ce type de stratégie agressive, ben voilà, on aura retenu que vous aviez essayé de placer le produit en grande quantité, que vous avez communiqué massivement, etc., et que vous avez perdu. Ce qui, lorsque vous êtes impliqué dans une succession, ce qu'on verra que c'est le cas de Sony et que c'est en partie pour ça que cette entreprise fait partie de notre petit panel d'entreprises que l'on va suivre sur longue période. Donc, quand vous êtes impliqué dans une série de batailles, bah, si vous en perdez une, ok, si vous en perdez une deuxième, vous voyez que vous finirez par... et puis une troisième, et que vous aviez mis des moyens importants pour essayer de gagner ces batailles, bah, évidemment, on va finir par se dire que bah, quand vous essayez d'imposer un standard, vous n'y parvenez pas, et donc par anticiper votre échec. Or, on y reviendra. L'une des clés, d'une manière générale, c'est que le plus souvent, l'entreprise qui va gagner ou le groupe d'entreprises qui va gagner, eh bien, c'est celui pour lequel les autres acteurs anticipent qu'il va gagner. Puisque, évidemment, quand on mise sur un standard, que ce soit pour acheter le produit ou pour le vendre, bah, on préfère miser sur celui qui va l'emporter. Deuxième levier, les stratégies de propriété intellectuelle, et notamment de brevets, mais ça peut aussi concerner des droits d'auteur sur des logiciels, par exemple. Et donc, normalement, les droits de propriété intellectuelle, on l'a vu pour le brevet, hein, c'est fait notamment pour gêner l'accès des concurrents, alors soit au marché dans son ensemble, soit au moins bah, leur donner un handicap parce que bah, certaines des fonctionnalités que vous vous proposez, ils ne pourront pas les proposer. Seulement là, voilà, dans le cadre d'une bataille de standards, vous avez plutôt intérêt à ce que des concurrents rejoignent votre camp plutôt que celui de l'adversaire. Souvenez-vous, un hein, des blocs d'alliés côté VHS et côté Betamax. Le fait qu'il y ait eu plus d'entreprises côté VHS, et notamment parce que les conditions offertes par JVC étaient plus intéressantes que celles de Sony, bah, a forcément joué un rôle hein, dans la victoire finale du VHS. Et donc, bah, ici, notre intérêt peut être l'intérêt inverse à celui qu'on a d'habitude, c'est-à-dire au contraire. Essayer de faire en sorte que des concurrents nous imitent, en quelque sorte, hein, adoptent les mêmes technologies que nous. Donc ça amène évidemment à des stratégies qui peuvent paraître un peu paradoxales au premier abord, puisque on va accorder des licences à tous ceux qui le demandent, et souvent des licences avec des royalties faibles, voire dans certains cas, des licences gratuites. Ça arrive relativement fréquemment, justement dans les cas de bataille de standard. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de propriété intellectuelle ouverte. Hein, si vous entendez stratégie de propriété intellectuelle ouverte, ça veut dire qu'on accorde facilement et à des conditions avantageuses des licences. Alors évidemment, il y a un risque aussi, hein, il y a toujours des risques associés à n'importe quelle stratégie. Ici, c'est que bah, puisque vous mettez à disposition vos technologies de vos concurrents, évidemment, ça veut dire que vous ne gardez pas, au moins du point de vue des technologies, un avantage concurrentiel sur eux. Et donc, bah, il y a un risque que finalement, ils arrivent à mieux tirer parti de votre standard que vous. L'exemple le plus célèbre, on aura l'occasion indirectement, parce qu'on ne va pas l'étudier en tant que tel, mais on va en parler un peu à travers l'exemple d'Intel, c'est IBM, hein, qui a créé l'IBM PC, l'IBM PC qui a imposé du coup le MS-DOS, qui était, on va dire pour faire simple, l'ancêtre de Windows, les microprocesseurs de la série d'Intel, etc., comme des standards. Et qui à un moment donné s'est trouvé tellement en position de faiblesse finalement sur ce marché qu'il avait créé, qu'il a fini par céder son activité PC à Lenovo. Troisième levier, les alliances. Hein, donc au-delà simplement d'accorder des licences, on essaye de constituer un vrai camp. Et plus notre camp sera puissant, plus a priori on aura de chances de l'emporter. Hein. On parle assez souvent de compétition entre blocs d'alliés, hein. Donc bloc contre bloc. Au passage, ces alliés sont en partie des concurrents, donc ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure à travers le cas de la propriété intellectuelle, hein, parce que c'est justement pour les avoir comme alliés que vous avez ces conditions, que vous proposez ces conditions intéressantes. Mais c'est aussi souvent des entreprises qui proposent des produits ou des services complémentaires. Hein, typiquement, ça n'a pas été trop fait dans le cas du magnétoscope, notamment parce qu'il était très utilisé pour enregistrer, donc c'était moins capital, mais on aurait tout à fait pu imaginer que les deux camps, VHS et Betamax, cherchent à obtenir le soutien exclusif de studios de cinéma. Parce que vous voyez que si un grand studio de cinéma avait annoncé que ils allaient soutenir exclusivement, par exemple, le Betamax en ne sortant leur film que sur le format Betamax, bah, ça aurait pu donner un avantage au Betamax. Et d'ailleurs, apparemment, j'avais lu dans un article assez sérieux, hein, quand un peu plus tard, Sony va racheter Columbia Pictures, qui va du coup devenir Sony Pictures, mais bon, la marque Columbia, hein, est restée, eh bien, certains des ingénieurs de Sony, leur réaction a été de dire, ah, si seulement on avait déjà eu, on avait acheté Columbia plus tôt, le Betamax aurait peut-être gagné. Donc ça peut être, voilà, comme ça, avoir des entreprises qui proposent des produits ou services complémentaires. On verra que ça jouera d'ailleurs dans le cas du DVD, puis surtout du Blu-ray contre le HD-DVD. Alors à partir de là, ben, comment faire en sorte d'attirer les partenaires? J'ai mis le mot séduire volontairement parce que il y a un peu de ça, c'est quand même essayer de les attirer dans notre camp plutôt que dans celui de l'adversaire. Donc on va essayer de montrer que c'est dans son intérêt de le faire, et donc se montrer le plus attractif possible. Alors d'où les conditions avantageuses. Vous voyez, les stratégies de propriété intellectuelle, j'aurais pu les mettre juste avant, juste après, voire dans la partie sur les alliances, mais assez souvent les licences vont un peu plus loin que les alliances au sens strict. C'est pour ça que je l'ai mis quand même à part. Et quelque part, le meilleur moyen d'attirer des alliés, c'est tout simplement de les convaincre que vous allez gagner. Donc, c'est pour ça que parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que les questions d'anticipation étaient extrêmement importantes sur les batailles de standards, puisque généralement, un standard dont la plupart des acteurs pensent qu'il va gagner, va gagner. Puisque du coup, justement, Les entreprises qui fabriquent le produit en question vont plutôt aller dans ce camp-là. Ceux qui fabriquent ou proposent des produits complémentaires vont aussi aller dans ce camp-là. Et puis le consommateur final, s'il pense que c'est cette entreprise-là qui va gagner, eh bien il va aussi plutôt acheter les produits de ce standard-là. Donc vous voyez que ça va avoir tendance à effectivement après relever de ce qu'on appelle parfois les prophéties autoréalisatrices. Parce qu'on pense que ça va se passer, bah du coup, ça se passe. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que certaines entreprises, parfois, se disent, Oula, je ne sais pas qui va l'emporter, donc on va être prudent, je vais mettre bah, des... je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais être un peu entre les deux camps. Donc Samsung l'avait fait dans la téléphonie mobile à un moment donné où l'un des systèmes dominants, c'était Symbian, qui était le système d'exploitation de Nokia, et où Android commençait à arriver. Bah, Samsung a sorti à ce moment-là à la fois des téléphones mobiles sous Symbian et sous Android. On verra que plus tard, ils feront un peu la même chose entre HD, DVD et Blu-ray. Et c'est pour ça que je vous avais dit, si vous vous souvenez, hein, qu'au niveau des magnétoscopes, bien que JVC soit une quasi-filiale de Matsushita, c'était pas du tout acquis à l'avance le fait que Matsushita se rallierait au VHS. Parce qu'ils auraient très bien pu avoir le raisonnement consistant à se dire, bah, écoute, c'est plus prudent d'avoir un pied dans chaque camp. Donc moi, je vais proposer des Betamax et donc si le Betamax réussit, bah, moi, je vais m'en tirer, je vais mieux m'en tirer, mais par contre, JVC va moins bien s'en tirer et donc ça compensera. Le fait que moi, je sois dans le bon camp compensera le fait que JVC aura perdu la bataille. Et à l'inverse, bah, si jamais c'est le VHS qui l'emporte, bah, moi, directement... Évidemment, c'est désavantageux pour moi, mais comme j'ai une filiale qui est dans l'autre camp, bah, globalement, je vais bien m'en tirer, et notamment mieux que ceux qui sont uniquement dans le camp perdant. Mais voilà, ils ont choisi de faire le pari de se mettre dans le même camp que leur filiale. Alors, il y a une chose qui vient un petit peu compliquer les choses, c'est qu'il y a un autre point qui va entrer en ligne de compte dans le cas des alliés, et qui là, par contre, n'entre pas en ligne de compte, a priori, dans le cas des consommateurs. C'est, bah, on va aussi se demander, enfin, on va aussi se poser la question du partage, justement, des fruits, de la valeur créée par l'innovation ou le standard en question. Et donc, bah, si jamais vous avez une entreprise qui est ultra dominante sur un marché, bah, vous allez être un peu pris entre deux feux, hein, puisque d'un côté, vous allez vous dire, bah, puisqu'elle est dominante, a priori, elle a une probabilité supérieure de l'emporter. Donc ça conduit plutôt à aller à s'allier à l'entreprise qui est déjà leader. Mais en même temps, vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais si je m'allie à son standard, ça va encore renforcer sa domination et donc je vais être encore plus vassalisé en quelque sorte. Hein, c'est pour ça, par exemple, que dans les années 80, quand IBM avait essayé de reprendre le contrôle justement du standard du PC, sur un élément important dans l'ordinateur qui est le bus de données. Enfin, pas seulement, hein, ils avaient proposé toute une série de choses, mais ce qui était vraiment protégé par eux, c'était le bus de données, donc ils accordaient des licences, mais bah, par peur justement de voir le IBM reprendre la main complètement sur le standard du PC, eh bien, les principaux fabricants de clones, Compaq, Dell, etc., se sont mis ensemble, se sont alliés pour créer un bus concurrent de celui d'IBM. Et c'est celui-là qui l'a emporté. Donc on aurait pu parier sur IBM, parce que quand même, IBM en informatique, eh bien non, là en l'occurrence, ce n'était pas le bon pari. Et eux, ils ont préféré prendre le risque de proposer leur propre bus plutôt que de voir IBM reprendre complètement le contrôle qu'il était en train de perdre. Donc vous voyez, il y a des aspects tactiques qui viennent s'ajouter quand même à cette anticipation de la réussite ou pas du standard. Enfin, puisque on est beaucoup dans l'anticipation, bah évidemment, ça va donner beaucoup d'importance aussi aux effets d'annonce. Puisque on veut parier sur le camp qui va l'emporter, eh bien, on va guetter les signaux qui montrent qu'un camp est en train de l'emporter. Et donc, ça veut dire que s'il y a deux camps, par exemple, qui s'opposent l'un à l'autre, chacun des camps va communiquer au maximum sur des points qui pourraient laisser penser que leur standard est en train de s'imposer. Par exemple, si le nombre d'utilisateurs a beaucoup augmenté, eh bien, on va le déclarer. Alors, ça peut donner lieu à des choses assez rigolotes sur le fait que les deux camps prétendent être en tête. Alors, souvent, si on laisse de côté le mensonge pur et dur, souvent, c'est parce qu'ils ne vont pas parler de la même chose. Je me souviens que pour des équipements, alors on n'a plus ça dans nos ordinateurs, mais avant on avait des modems pour se connecter à Internet, et il y avait à un moment donné deux standards concurrents de modems, et les deux déclaraient être en tête. En fait, il y en avait un qui était en tête auprès des utilisateurs, et il y en avait un autre qui était en tête dans les centres de télécommunications, les centraux, en fait, des opérateurs type Orange, etc. Et donc les deux, sans mentir, se disaient en tête. Voilà. Bon, finalement, c'est celui qui était en tête au niveau des utilisateurs qui l'a emporté, en l'occurrence. Puis on verra un autre exemple plus tard dans le cours, justement, sur la communication entre HD, DVD et Blu-ray. Et puis, ça peut être aussi dans l'annonce de nouveaux produits. C'est-à-dire que quand vous sentez que le camp d'en face est peut-être en train de l'emporter parce que son produit a pris de l'avance sur le vôtre, vous allez annoncer à l'avance, ce que vous allez faire. Dans les exemples célèbres, il y a la manière dont Microsoft avait réagi à la sortie du Macintosh, hein, voyant bien que le système du Macintosh était bien plus avancé que ce qu'il proposait à l'époque. Ils ont aussitôt annoncé que d'ici la fin de l'année, donc la même année que la sortie du Mac, ils allaient proposer un système comparable à celui du Macintosh. Ils n'ont pas tenu les délais, hein, mais ils ont fini quand même avec un an de retard par sortir Windows. Windows, c'est la réponse de Microsoft au Macintosh. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans la guerre entre le Betamax et le VHS, typiquement, quand un des camps proposait des cassettes d'une durée supérieure, l'autre camp probablement annonçait très vite dans la presse qu'ils allaient bientôt proposer des cassettes de X heures pour éviter que les consommateurs ne basculent dans le camp d'en face à cause de la durée des cassettes. Donc le but de cette communication, hein, c'est d'essayer de faire en sorte que si on a un avantage, eh bien, on s'en sert pour faire basculer plus fortement, hein. C'est pour ça que je vous avais donné tout le détail, année par année, hein, des ventes de Betamax contre VHS aux États-Unis. C'est parce que on voit que peu à peu, le VHS qui part après, qui est désavantagé au départ, eh bien, prend l'avantage. Il prend d'abord l'avantage un peu, et puis en fait, probablement à coup de campagne de communication, etc. Parce que du coup, comme il y a beaucoup plus d'entreprises, il y a aussi beaucoup plus de ressources pour faire ça. Peu à peu, on voit que ce début d'avantage, eh bien, va se transformer en avantage plus net, puis en déséquilibre flagrant. Et il y a peu de doute sur le fait qu'ils ont utilisé le fait qu'ils vendaient plus de magnétoscopes comme argument de vente. Donc du coup, bah, ça devient un cercle vertueux pour celui qui est en train de l'emporter et un cercle vicieux pour celui qui est en train de perdre. C'est très difficile dans ces cas-là de retourner la situation. Et puis donc, éventuellement, de compenser un léger handicap, ça peut être encore une fois en ne parlant pas de la même chose. Donc en étant quand même capable d'avoir une communication très positive, bien qu'on soit en train de prendre du retard. Donc voilà, vous savez presque tout sur comment gagner une bataille de standard. Alors au passage, c'est à la fois l'intérêt de ça, c'est à la fois bah, de comprendre comment des entreprises souvent grandes peuvent l'emporter dans des batailles de standard, mais c'est aussi intéressant d'avoir ces éléments-là quand vous n'êtes pas à la tête d'un standard, mais que vous êtes plutôt une entreprise, bah, vous avez créé une start-up, par exemple, et vous devez décider bah, sur quelle plateforme vous allez prioritairement créer votre application. Donc là, bah, vous avez une question d'anticipation où vous allez vous dire, bah, il vaut mieux que je commence par la plateforme qui va l'emporter, si on pense qu'une des plateformes va l'emporter sur une autre. Et donc, vous voyez que en analysant la stratégie des acteurs, vous pouvez vous faire une opinion un peu plus rationnelle sur qui a de bonnes chances de l'emporter. Donc, voilà, ces éléments sur les batailles de standard ne sont pas utiles uniquement parce que là, la probabilité que vous soyez mêlé à un haut niveau, à une grande bataille de standard en tant qu'entreprise leader. Elle n'est pas énorme, mais par contre, la probabilité que votre entreprise ait à faire à un moment donné des choix en matière de standards, là, elle est très forte. Donc c'est pour ça que j'ai développé un peu cet aspect-là. Bon, par ailleurs, les stratégies qu'on a évoquées sont globalement des stratégies qui sont des stratégies d'accélération de la diffusion d'une innovation, même quand il n'y a pas de standard en jeu, hein. Alors, donc on va laisser de côté nos magnétoscopes, on va laisser de côté Sony, et on va... Oui, Jonas.
Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour.
J'avais une question quand on parlait d'innovation radicale en série. Donc, on parle pas là d'innovation disruptive, vu que c'est en série.
Ah, alors si en fait elles sont disruptives, mais alors je vois pourquoi vous dites ça. En fait, c'est parce que chez Intel, puisque là on va basculer chez Intel, ils vont faire une série d'innovations disruptives en quelques années. Ils vont en faire trois, ce qui est assez remarquable, hein, surtout pour une start-up. Voilà.
Ok. Merci.
Donc, c'est ouais, c'est une bonne question. Alors en plus, vous me faites quasiment la transition, puisque avant de nous plonger justement chez Intel, on va bah, définir un peu ce qu'on entend par innovation incrémentale ou innovation radicale. C'est à la fois quelque chose qui est assez connu, je ne pense pas que vous soyez déstabilisé par ce que vous allez... Mais vous allez voir, il y a quand même quelques petits éléments derrière cette typologie qui est très classique, hein, qu'il est intéressant de creuser un petit peu. Le premier point qu'il est intéressant de creuser, c'est le fait que, alors qu'on avait tendance à présenter une innovation comme simplement radicale ou incrémentale, sans trop se poser la question de est-ce qu'il y a plusieurs dimensions et qu'il peut y avoir une réponse différente en fonction de la dimension, ben, ça vaut quand même le coup de prendre en compte le fait que il y a un peu deux façons de voir l'innovation radicale qui sont complémentaires. Donc nous, on va vraiment prendre les deux dimensions en compte. Bon, ce que je viens de dire n'est pas forcément, j'en suis conscient, super clair, tant qu'on n'a pas vu les deux dimensions. Donc le mieux, c'est justement de se plonger dans les deux di dimensions. Alors la première, c'est la dimension technique, hein. Généralement, et ça a été votre réflexe, hein, Jonas, ça a été de dire, du coup, est-ce qu'on parle bien de discontinuité technologique, puisque vous dites en série, donc a priori, c'est que c'est pas tant en rupture que ça avec l'existant. Donc vous avez bien pris spontanément la dimension technologique en compte. Et c'est vrai que pendant très longtemps, si on ouvrait un ouvrage de management de l'innovation, hein, la définition même de l'innovation radicale, elle se faisait en fonction du degré de discontinuité technologique. Est-ce qu'on est dans une simple évolution de l'existant? Et dans ces cas-là, c'est la notion d'incrément, hein, on ajoute un petit quelque chose, donc on est dans l'innovation incrémentale. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rupture? Alors le terme de révolution est un peu fort, hein. On va utiliser le terme innovation radicale, même si ce n'est pas une révolution totale, mais il faut qu'il y ait quand même un degré élevé de discontinuité technologique. Alors, il y avait d'ailleurs c'est pas la dernière version de leur ouvrage, dans la première édition de l'ouvrage de Loelier et Tellier, ils avaient donné cette définition-là. Elle n'est plus dans la nouvelle édition, c'est pour ça que je reprends l'ancienne. Parce que là, on voit qu'ils sont bien sur le côté avant tout technique, hein, savoir et savoir-faire nouveau. Pour augmenter les performances de l'offre, on voit bien qu'on est sur de l'innovation qui est en rupture technologique pour obtenir une innovation de sophistication. Alors déjà, telle qu'elle est, là, cette définition demanderait à être un petit peu nuancée. Il y avait deux chercheurs américains qui avaient fait une étude un peu systématique de toute une série d'innovations radicales sur une assez longue période, hein, et ils s'étaient justement posé la question de l'impact sur les compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on mettait en œuvre de nouvelles compétences ou est-ce que finalement on capitalisait sur des compétences existantes. Et leur nuance, leur résultat est nuancé. Puisque ils ont bien repéré une partie des innovations radicales détruisaient les compétences existantes, ou plus exactement ne réutilisaient pas les mêmes compétences. Donc dans ces cas-là, ça ne sert pas à grand-chose de les avoir eues, hein, vous voyez, c'est bien de savoir faire des pellicules photographiques. Ça veut dire qu'on est excellent en chimie. Mais quand on bascule sur des capteurs numériques, ça ne vous sert plus à rien. Donc là, on est typiquement dans une innovation radicale qui est une innovation que, pour reprendre leur vocabulaire, competence destroying. Mais ils ont aussi repéré des innovations radicales qui s'appuient sur les bases de connaissances existantes, simplement, ça les pousse un peu plus loin. Hein. L'exemple que je prends souvent, c'est, ça change un peu de secteur, c'est la fusion nucléaire. C'est vraiment une innovation radicale, hein, puisque, en gros, ça fait 30 ans au moins, ou presque 40, que des spécialistes travaillent dessus. On arrive seulement pour très cher d'ailleurs, à faire des prototypes à faible échelle, hein. L'espoir est peut-être un jour, s'ils arrivent à le mettre au point, mais ce sera dans des décennies, d'avoir des centrales nucléaires qui produiraient une énergie qui serait beaucoup plus efficiente, qui produirait beaucoup plus d'énergie, et surtout en laissant beaucoup moins de déchets. radioactif. Ce serait quand même plutôt une bonne chose, a priori. Donc, nul doute qu'une innovation sur laquelle on travaille depuis des décennies et qui ne sera pas au point avant 15, 20, voire 30 ans, on ne pourra pas dire que c'est de l'incrémental, hein. Et néanmoins, on peut, les bases de connaissances sur lesquelles ça repose, bon, évidemment, le noyau qui est de la physique nucléaire, et puis bah, tout ce qu'il y a autour sur la résistance des matériaux, etc., bah, finalement, c'est des compétences qui sont assez proches de celles qu'on utilise dans les centrales actuelles qui utilisent la fission nucléaire et pas la fusion nucléaire. Et alors ça a une grosse conséquence stratégique, évidemment, hein, c'est que quand on est dans le cas d'une Competence Enhancing Innovation, eh bien, il y a de grandes chances pour que les entreprises qui sont déjà en place sur le marché soient aussi celles qui sont les mieux placées bah, sur cette nouvelle innovation. Alors que quand on a des innovations destructrices de compétences, eh bien là, c'est un peu comme si tout le monde repartait à zéro, puisque les entreprises déjà en place sur le marché ne détiennent elles-mêmes pas les compétences nécessaires pour le nouveau produit. Donc ça laisse souvent de la place à des nouveaux entrants. Pour ça, c'est sur la dimension discontinuité technologique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un manuel de management d'innovation, on allait généralement ne prendre en compte que celle-là. Mais dans un manuel de marketing de l'innovation, ce n'est pas la même chose qu'on allait mettre en avant. On allait mettre en avant le fait qu'une innovation radicale, c'était une innovation qui bouleversait les conditions du marché. Donc, qui pouvait changer radicalement l'offre, ce qui à ce moment-là peut rejoindre largement, mais peut aussi bouleverser les prix, peut aussi bouleverser le mode de distribution. Donc, vous voyez toutes les variables habituelles du mix marketing. Alors, pourquoi est-ce qu'on a longtemps un peu négligé le fait qu'il y avait deux dimensions? Bah parce que c'est vrai qu'intuitivement, on se dit souvent l'un va avec l'autre. C'est sûr que vous avez plus de probabilité de modifier en profondeur le fonctionnement d'un marché si jamais vous avez apporté des modifications substantielles à votre produit ou à votre service et que donc vous avez aussi une forte innovation sur le plan technologique. Donc voilà, souvent. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que ça n'a pas choqué tant que ça, le fait qu'il y ait ces deux dimensions qui cohabitent sans qu'on clarifie vraiment les choses. Mais pourquoi moi j'insiste un peu plus dessus? Parce qu'il y a quand même des exceptions. On peut avoir des produits, donc en ce moment-là, on les qualifiera quand même d'innovation radicale, mais elles peuvent n'être radicales qu'en fait sur une de ces deux dimensions. Donc, bah, l'exemple que je prends à peu près toujours, c'est celui du Walkman, parce qu'il est vraiment très net. On peut à la fois difficilement faire plus radical sur le plan de l'impact sur le marché, puisque c'est un nouveau produit qui n'existait pas du tout. Donc c'est même pas une modification en profondeur. Enfin, c'est vraiment ça crée un nouveau marché. Le marché du Walkman n'existait pas, et puis après, bah, il existait. Donc c'est vraiment un nouveau concept. Et en même temps, il embarque des technologies qui sont. Alors, ils ont dû améliorer un peu la qualité des casques, qui n'étaient pas tout à fait de qualité suffisante pour voilà, avoir une qualité d'écoute musicale suffisante par rapport à ce qui était recherché. Mais même dans ce cadre-là, ça a été de l'innovation, mais de l'innovation incrémentale. Donc, du point de vue technologique, le Walkman, c'est une innovation incrémentale, et du point de vue de l'impact sur le marché, c'est bien sûr une innovation radicale. Et à l'inverse, vous avez parfois des innovations technologiques radicales qui ne provoquent pas de changement majeur sur le marché. Le passage du disque vinyle à la cassette, d'ailleurs, ça n'a pas été un passage complet, puisque les deux cohabitaient largement, puis La substitution qui, cette fois, a été presque totale, même si le vinyle revient en ce moment à la mode, mais il avait quasiment disparu, hein. Le passage au CD, eh bien, ça n'a pas changé grand-chose. On achetait toujours dans les mêmes magasins des albums ou des singles. Voilà, ce qui a vraiment modifié en profondeur le marché, c'est la musique en ligne, puis le streaming musical. Voilà, le CD a beau être une technologie qui n'a absolument rien à voir avec celle qui est utilisée pour lire un disque vinyle, ça n'avait pas changé radicalement la situation sur le marché. Puis on a le même phénomène dans le passage du magnétoscope au DVD. On pourrait se dire que le Blu-ray, c'est moins une innovation radicale, mais on verra plus tard dans le cours qu'en réalité, il a fallu plusieurs années hein, pour mettre au point cette innovation. Donc, ça veut bien dire que sur le plan technique, il y avait quand même un saut, alors pas aussi important. Hein. Clairement, on est toujours sur de la lecture laser, comme dans le cas du DVD, alors que magnétoscope, c'est vraiment totalement différent. Mais néanmoins, alors ça montre d'ailleurs au passage qu'il y a des cas qui sont très nets. Et puis il y a des cas où on pourrait discuter parce que en fait c'est pas soit de la toute mini innovation avec une toute petite amélioration, soit une révolution totale. En réalité, vous avez bien sûr un continuum entre les deux. Puis vous avez des cas où peut-être pourrait y avoir des discussions, est-ce que c'est radical ou pas. Ce qui est important, évidemment, c'est après d'un point de vue stratégique. L'impact que ça va avoir, hein, généralement, une innovation radicale va souvent avoir un impact important, pas toujours tout de suite d'ailleurs, hein, parce que parfois le produit met du temps pour s'imposer sur le marché, on le verra avec la photo numérique, mais en tout cas, l'impact est souvent radical pour le coup. Alors évidemment, ça, il sera d'autant plus radical que ça a un effet important sur le marché, parce qu'on a vu que le côté radicalité technologique n'entraîne pas forcément ce changement important sur le marché. Et puis ça dépend si c'est Competence Destroying ou Competence Enhancing. J'ai du mal avec Enhancing. Donc c'est plus ou moins vrai, mais globalement, une innovation radicale va vraiment changer les conditions sur le marché. Les innovations incrémentales ne vont pas faire ça. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'on en fait beaucoup plus que des innovations radicales. Et donc, une succession d'innovations incrémentales, pardon, peut tout à fait avoir à la fin un impact important sur la performance quand vous les cumulez. Donc je pense que c'est pour ça que votre camarade Jonas a dit tout à l'heure, si vous dites en série, c'est que c'est incrémental, puisque ça veut dire qu'il y en a eu toute une série et que donc on les a cumulés. Donc voilà pour nos petites définitions. En complément sur le e-campus, je vous mettrai quelques éléments complémentaires sur des typologies encore plus fines d'innovation, où parfois on distingue par exemple les innovations architecturales des innovations modulaires. C'est pas inintéressant, mais bon, je pense qu'il n'y a pas lieu d'y passer trop de temps non plus. Donc, on est chez Intel et si vous vous souvenez, même si là ça commence à être un petit peu loin dans le temps, quand j'avais présenté les entreprises à la première séance, hein, Intel, c'est une entreprise qui est créée par des pontes de l'électronique hein, pour mettre au point un nouveau type de mémoire vive pour ordinateur, hein, pour remplacer des mémoires à tore de ferrite. Par des circuits semi-conducteurs hein, sur lesquels on aura gravé les composants, les transistors. Alors les pontes en question, c'est Bob Noyce, hein, co-inventeur du circuit intégré électronique, et Gordon Moore, père de la loi de Moore. Et du coup, le simple fait d'avoir la perspective de travailler avec Bob Noyce ou Gordon Moore, c'est déjà en soi quelque chose d'attractif qui fait qu'ils vont attirer des très bons ingénieurs qui vont parfois accepter une perte de salaire hein, significative pour pouvoir aller travailler alors à ce projet qui est intéressant, hein, le projet compte aussi évidemment, mais aussi pour travailler avec Bob Noyce et Gordon Moore. Ils avaient aussi levé une somme relativement importante hein, pour l'époque, puisqu'ils avaient d'entrée levé 2,3 millions de dollars, ce qui correspondrait à peu près à 15 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc en premier tour de table, c'est quand même assez considérable. Ce qui leur a permis d'embaucher plusieurs dizaines de personnes rapidement. Et donc, d'être capable de suivre trois voies technologiques en parallèle les unes des autres. C'est souvent une des grosses, grosses difficultés qu'on a lorsqu'on est sur une technologie qui est vraiment émergente, qui justement est radicalement nouvelle. C'est que souvent, il y a plusieurs manières possible d'arriver à atteindre un certain niveau de performance. Si vous faites le pari sur la mauvaise voie technologique, en général, vous n'avez pas trop les moyens de vous retourner, vous n'avez plus assez de ressources et donc votre start-up fait faillite. Oui, Jonas?
Oui, je voulais juste revenir sur le cas de Intel.
Oui.
Donc c'est Intel ou c'est Microsoft qui a lancé l'ordinateur concurrent, enfin qui a réagi face au Macintosh?
Alors, c'était Microsoft, que là, on était sur
Ok.
le software. Hein. Mais Microsoft, même si après, ils ont conçu des consoles de jeux, Microsoft, c'est avant tout une entreprise de logiciels. Hein.
Juste, on est d'accord sur le fait que Microsoft, en réagissant au Macintosh, n'a pas fait une innovation radicale.
Non, non, non. Non, non, là, ils ont même fait une imitation et à tel point que qu'Apple avait réagi en leur faisant un procès qu'ils ont perdu. Hein, parce que, en fait, quand vous copiez des éléments comme ça, sans totalement copier le graphisme, parce que sinon le graphisme aurait pu être protégé, mais je ne suis même pas sûr qu'il l'ait fait à l'époque. Donc, simplement copier le principe d'un logiciel, c'est pas en soi protégé. Donc, ils avaient perdu leur procès, Apple, mais. Pour vous dire à quel point c'était effectivement pas une innovation radicale, c'est que la réaction immédiate d'Apple, ça a été, ils nous ont copié, on leur fait un procès.
Okay. Et je voulais savoir, moi je me rappelle des trois horizons. Est-ce que ça s'apparente un peu aussi à l'innovation incrémentale, radicale, et la dernière, je ne me rappelle plus, mais vous voyez de quoi je parle?
Non, pas trop.
Non? En gros, c'est une théorie justement sous le fait, enfin, qui met en avant le fait qu'il y a trois horizons, quoi.
Oui, alors ça peut rejoindre en ce sens que si vous vous lancez dans de l'innovation radicale, vous allez effectivement partir sur un horizon temporel assez long. Après, ça dépend des secteurs, mais la mise au point elle-même va souvent être longue. Et après, comme vous avez un produit ou un service qui est totalement nouveau, parfois il faut un certain temps pour que la diffusion de l'innovation se fasse.
Et là, dans cette slide, vous dites justement que la présence des deux personnes aux commandes ont attiré, entre guillemets, des cerveaux, des têtes. C'était une start-up, c'est ça, au début?
Ah oui, bien sûr, c'est une
Ok.
start-up. Au début, il crée. C'est Bob Noyce et Gordon Moore qui l'a créé, puis très vite, ils sont quatre. Du coup, après, ils vont embaucher des ingénieurs et des scientifiques pour mener à bien leur projet. Donc, oui, je pourrais vous retrouver. J'ai ça, les effectifs d'Apple année par année. Je regarderai à la pause, parce que comme j'ai rédigé un cas Intel, j'ai ça facile à trouver sur mes propres documents. Donc c'est encore plus simple.
Merci.
Mais effectivement, c'est une start-up qui va croître assez vite au niveau des objectifs. Et comme beaucoup de start-up, et ça on va y venir juste après, le chiffre d'affaires est décalé par rapport aux effectifs embauchés. Donc on est effectivement dans le cas typique d'une start-up.
Donc c'est du growth, c'est ça? du growth equity.
Alors, oui et non, parce que c'est en fait néanmoins, ils vont devenir rentables relativement vite. Donc, en fait, avec leur beau tour de table supérieur à la normale, du coup, ils ne vont pas avoir à faire des tours de table plus ce qu'on appellerait aujourd'hui série B ou
Série A, série B.
C.
Ok.
Ben, série A, c'est pas de la croissance, hein. Série A, en
Ok.
général, le produit n'est même pas encore lancé ou il vient d'être lancé. C'est plutôt les séries B, C, D qui sont vraiment des séries qui sont faites pour accélérer la croissance.
Ok.
Donc, eux, du coup, ils font trois équipes. La première, alors ce n'est pas pour que vous reteniez les éléments techniques, hein, c'est juste pour être précis, puisque je parle de trois équipes, autant dire ce sur quoi ils travaillaient. Mais donc, la première va être abandonnée assez vite, et donc l'équipe en question va être dispersée entre les deux autres. Il y a une deuxième équipe qui travaille sur une architecture dite Schottky bipolaire. J'espère que vous ne me demanderez pas pourquoi, parce que je ne saurais pas vous répondre. Et sûrement à un monsieur Schottky, hein, qui avait mis à jour sans doute l'élément de physique qu'il y a derrière, mais bon, voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est la première équipe qui aboutit à un vrai prototype qui, pour ceux qui connaissent, hein, dans le cadre du Lean Startup, on appellerait un MVP, parce qu'on est plus là dans le cadre d'une expérimentation. Elle est vendue, hein, à Honeywell, mais en fait, elle sera vendue qu'à Honeywell. C'est vraiment la toute première commercialisation, mais on n'est pas encore sur de la commercialisation auprès de l'ensemble des fabricants d'ordinateurs. Et puis le procédé MOS, qui semble assez prometteur, mais sur lesquels ils ont des grosses difficultés de mise au point, notamment en matière de fabrication. Donc ils n'arrivent pas à obtenir de la mémoire fiable. De façon un peu régulière. Alors, chaque équipe fonctionne presque dans son coin. D'ailleurs, il y a une forme d'esprit de compétition, hein, entre les équipes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, bon, l'inconvénient, c'est que ça ne favorise pas forcément les échanges, hein. Mais bon, ça a un côté motivant. Et il y a simplement... Alors Bob Noyce, il a pris un peu de recul par rapport aux aspects technologiques. Il est plus vraiment sur le management de l'entreprise. Mais par contre, Gordon Moore, lui, va passer d'un groupe à l'autre, d'une équipe à l'autre, pour leur faire bénéficier de son savoir-faire. Et du coup, bah, cette grande autonomie, cette organisation informelle des échanges, eh bien... De chercheurs très connus en théorie des organisations, hein, donc si vous n'en avez jamais fait, vous les connaissez probablement pas, mais qui s'appellent Burns et Stoker, vont qualifier ce type de structure organique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause. Pour une fois, je ne vais pas trop... déraper dans l'autre partie. Et puis après, ben, on verra ensemble ce que c'est qu'une structure organique, pourquoi on l'appelle comme ça et ce que ça signifie. Donc je vous retrouve d'ici 5-10 minutes comme d'habitude.